Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Sur la place du village d'Augé-Saint-Vincent se dresse l'église Saint-Caprais. C'est à l'intérieur de ces murs que Dominique Carreau, président de l'association de sauvegarde de l'église, nous fait découvrir l'histoire de cet édifice religieux.
Tu peux me dire pourquoi l'église s'appelle Saint-Caprais ?
Alors Saint-Caprais est un martyr au 4e siècle dans le sud-ouest de la France. Et effectivement, il a donné son nom à l'église de ce village qui s'appelle Augé-Saint-Vincent. L'histoire du lien n'est pas tout à fait établie, mais probablement, il s'agit vraisemblablement d'une histoire de transfert de reliques qui, au Moyen-Âge, était un moyen de faire venir des gens et de trouver, du coup, des financements. Enfin, l'histoire sera à explorer plus avant. Ça fait toujours partie des mystères fascinants sur les bâtiments anciens.
Alors, de quand est date cette église ?
Alors, elle a commencé au XIIe siècle, c'est-à-dire carrément 900 ans. Elle est toujours là. Elle a été construite du XIIe au XVIe siècle par différentes tranches successives. Ça a commencé par une nef toute simple avec un plafond arrondi. Et petit à petit, plusieurs chapelles ont été rajoutées dans l'axe de la nef, mais également sur le côté, et dont l'endroit où effectivement se trouve le clocher qui est à côté de la nef. Ces chapelles ne sont pas tout à fait très géométriquement installées. L'église est un petit peu de travers, ce qui lui donne un charme.
Donc au fil des siècles, au départ, c'était une église romane, et ça s'est transformé en église gothique après. On trouve les deux styles à l'intérieur.
On peut dire que la nef d'origine est romane, oui. Oui, absolument. Et petit à petit, un bas-côté a été construit, très simple. Et au fur et à mesure des agrandissements, le style gothique a été utilisé. Donc on lit effectivement l'évolution des techniques au sein de l'église pour se terminer par, au XVIe siècle, une chapelle flamboyante avec effectivement des arcs très... très fin et très, très tendu.
Les restaurations successives avaient quel but, en fait ? C'était pour agrandir l'église ? Parce qu'il n'y avait pas assez, les fidèles n'avaient pas de place, ou quoi ?
Ce sont des agrandissements, tout à fait. On imagine qu'effectivement, il y a eu un agrandissement de la population. Bon, beaucoup, beaucoup d'églises de villages de France ont été commencées au XIIe siècle. Apparemment, à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs siècles d'expansion démographique, de relatif calme, et de nombreuses églises de nos villages présentent effectivement ces extensions progressives, souvent jusqu'à la Renaissance.
Souvent dans les églises, le clocher est au-dessus du transept. Là, en fait, le clocher de l'église, il est à côté de l'église, il est accolé à l'église. Comment ça se fait, ça ?
Oui, il est à côté de la nef. Il a été construit largement après la nef. Bon, c'était bien entendu très compliqué de le faire par-dessus la nef, puisque ça n'avait pas été prévu au départ, donc il a été construit juste à côté. C'est un magnifique clocher très effilé, comme on en voit plusieurs exemples dans la vallée de l'Automne, et qui demande, bien sûr, un petit peu d'entretien. Enfin.
Donc, cette église est assez remarquable, quand même, et à l'intérieur, elle conserve quand même quelques trésors.
Alors, elle a la chance de conserver un certain nombre d'éléments de décor qui sont des sculptures de différentes époques. Certaines sont carrément enchâssées dans les murs de pierre. Il s'agit de la plupart, enfin, d'un certain nombre de saints. Nous avons aussi plusieurs copies de peintures de peintres célèbres, dont une copie d'un Léonard de Vinci, dont l'original est au Louvre, mais la copie est d'excellente qualité. On a également une chose assez étonnante et assez rare, c'est une peinture sur bois qui est au-dessus du fond baptismal, qui a été probablement daté du XVIIe siècle, un petit peu plus tard que l'église. Et voilà, on appelle ça un ciel de fond baptismal.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une partie des voûtes, disons, ça s'appelle les voûtes, hein, qui est peint. Donc, à quelle époque on peignait l'intérieur des églises? Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui étaient peintes. On ne retrouve plus ça maintenant, mais avant, c'était comme ça.
Alors, ce que nous avons ici, c'est effectivement une partie peinte au-dessus du fond baptismal. On a également un vitrail peint en trompe-l'œil, en fait, dans l'axe de la nef, qui, lui, probablement a été plutôt fait au 17e ou au 19e. Et nous avons quelques traces de fresques, peut-être de la Renaissance, que nous espérons dégager mieux et être restaurées le jour où une restauration sera possible.
Alors, cette église, elle dépend de quelle paroisse, maintenant ?
Mais c'était à l'origine la paroisse du village, hein, puisque le logement du curé était juste à côté, au presbytère. Maintenant, elle est regroupée avec une quarantaine de villages centrés sur Crépy, en Valois. C'est la paroisse Saint-Sébastien et, qui regroupe maintenant un nombre vraiment important d'églises dans lesquelles les messes sont dites à tour de rôle. Donc il y a ici quand même une messe assez régulièrement.
Non, mais il y a toujours des messes, des mariages, des baptêmes et tout ça.
Tout à fait. Oui, oui, absolument.
Alors, on est à l'intérieur de l'église, évidemment. Je vois qu'il y a quand même pas mal de travaux, d'échafaudage. Il y a, je suppose, un entretien.
Voilà. Alors, comme toutes les choses construites par les hommes, si on ne l'entretient pas, ça retombe en poussière. Il y a actuellement un programme de restauration en cours qui a été lancé il y a, on va dire, une dizaine d'années, sur l'observation que quand même un certain nombre d'éléments structurels de l'église commençaient à être en péril. Ce qui est assez sympathique, c'est que ça a commencé par une association qui avait pour activité de faire du chant vocal. C'est la chorale Allegria, pour ne pas la nommer, qui avait pris l'habitude de répéter ici dans cette église parce que l'acoustique est assez bonne. Juste devant l'autel. Et finalement, de cette activité est ressorti le constat du mauvais état de l'église et l'association qui fonctionnait avec a sensibilisé la commune pour lancer effectivement des demandes de subventions, puisque une petite commune ne peut pas en fait faire face aux véritables travaux de son église. Donc on en est actuellement à une deuxième tranche de travaux sur un ensemble de 5 à 6 tranches qui va consister à réparer dans le comble une partie de la charpente qui a été abîmée par des fuites, de réparer les parties de couverture correspondantes, et aussi d'enlever des gravois, c'est-à-dire des pierres qui avaient été laissées par le dernier chantier du XVIe siècle sur une des anciennes chapelles et qui contribuaient à son affaissement. C'est pour ça qu'on voit effectivement un arc de décharge, c'est-à-dire un échafaudage en bois qui soutient un arc de pierre que l'on espère pouvoir enlever dans quelques mois.
Dans la réfection de cette église, on a besoin de l'autorisation de l'évêché. Est-ce que vous êtes allé voir au bâtiment de France aussi ?
Alors, l'église n'est pas classée monument historique. Elle n'est pas non plus à l'inventaire des monuments historiques. Elle est propriété de la commune. La commune s'est adressée donc aux collectivités comme le département et la région pour solliciter des financements pour petit à petit effectivement effectuer ces tranches de travaux. Il faut bien noter que pour une petite commune, c'est strictement impossible de faire face à l'ensemble du programme qui avoisine les 600 000 euros. Et cette seconde tranche, donc, a été financée par le département de l'Oise, par la région de France et par le biais de la Fondation du patrimoine.
Vous avez fait intervenir un architecte ?
Dès le début de l'idée de restauration, a été désigné un architecte du patrimoine, qui est Nicolas Dehu, qui a commencé par faire un diagnostic de son état. Et la première tranche a consisté à rénover le portail d'entrée. Il y a des colonnettes qui ont été changées. Et voilà, on en est à la deuxième tranche voilà, de la patience pour effectivement petit à petit arriver à passer toutes ces tranches suivantes. Ensuite, ce sera la réparation des maçonneries extérieures, ensuite les finitions intérieures, et ensuite on pourra penser au reste, c'est-à-dire au clocher avec les abat-sons, et puis le campanaire, c'est-à-dire les cloches.
Les six tranches, elles vont s'étaler sur combien d'années alors ?
Eh bien, c'est très difficile à dire pour l'instant. Tout va dépendre de la bonne volonté de nos collectivités.
Vous avez prévu six tranches de restauration, mais les six tranches, elles ne sont pas financées pour le moment.
Non, 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 elles sont à financer morceau par morceau, tout à fait. Là, le diagnostic date maintenant de 5-6 ans environ. On en est à la deuxième tranche donc, de travaux. Donc, c'est une œuvre de longue haleine.
Pour finir, les gens qui veulent venir découvrir cette église, comment ils font ? À qui ils s'adressent ?
Alors, il y a d'abord, traditionnellement, il y a les 35 clochers de l'automne qui organisaient des visites des églises de la région. Maintenant, il est possible qu'il y ait d'autres dates proposées dans d'autres contextes pour venir effectivement visiter ces lieux emblématiques.
Est-ce que si on arrive au Café Citoyen, on fait une demande, est-ce que Dominique Caro peut venir ouvrir l'église pour faire une petite visite personnelle ?
Ben, ce serait extrêmement, extrêmement volontiers. Il y aura quand même, je pense, peut-être préalablement la ville des propriétaires, qui est la commune, et aussi le visager principal, qui est l'évêché, pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions, mais pourquoi pas.
Il faut l'autorisation de l'évêché pour venir visiter l'église ?
Malheureusement, les églises, maintenant, en temps normal, sont fermées. Il serait décidé qu'elles soient réouvertes en permanence ou à certaines dates, ça ne poserait pas de problème, mais je pense que tout le monde serait ravi qu'elles se soient élargies.
Depuis l'église d'Auger, c'était Hervé. Bonne écoute sur RVM 93.7.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.